Bonsoir Adicias, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Et si demain l'écologie prenait le pas sur la finance, et si demain le théâtre aussi prenait le pas sur la finance, et bien ça irait, et la littérature, pourquoi pas, ça irait beaucoup mieux. Je remercie Jean-Louis Azac-Fraisse et Dorian Gilman qui est là, pardon, je déforme ton nom, qui sont là pour la technique, et nous les remercions parce que sans technique, pas d'émission. Au micro, Christian Moreto, mais pas que.
L'Andécella est également tout mouillé.
Voilà, nous avons pris un petit peu l'eau. Et puis, nous avons trois charmantes personnes dans le studio. Anouk, Jordan, Camille Cabarot, Clémentine Lafa. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bienvenue chez nous. Et nous avons donc une programmation bien chargée, comme à l'accoutumée. Nous allons parler donc d'écologie, de théâtre et de littérature. Et nous avons au téléphone peut-être Ananda Guillet, non pas encore, donc dans quelques instants. Eh bien, en attendant, nous allons faire la connaissance de qui Anouk, Camille, Clémentine, qui prend la parole.
Alors moi, je m'appelle Anouk, je suis à la compagnie A, la compagnie de théâtre toulousaine. Et donc, on est là pour vous parler notamment de l'événement Les Tréteaux du Capitole qui va avoir lieu le week-end prochain. On est ravis de pouvoir présenter ça à la radio aujourd'hui.
Alors, le week-end prochain, c'est-à-dire le 11, 19... 12 et 13
Non, non, c'est pas ça. Le 19 et 10 juin, du vendredi au dimanche.
D'accord, et ça se passera où?
Ça se passe à deux pas du Capitole, c'est du théâtre en plein air, donc il va avoir lieu dans la cour de l'hôtel Ibis, qui est juste derrière le Capitole, entre la rue du Thor et la place.
Donc il va falloir prier les déesses et les dieux pour
de la météo,
pour qu'il ne pleuve pas, que ça ne mouille pas comme aujourd'hui. Donc nous avons peut-être au téléphone Jean-Loup, c'est bon ? Au téléphone, donc, et nous reviendrons bien sûr sur le théâtre très vite, Ananda Guillet. Alors, juste un petit édito que j'avais écrit et que j'ai lu vendredi, mais que j'ai envie de vous relire, puisque vendredi, dans le cadre de l'émission Traversée. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Transition écologique, Monsieur le ministre de l'Agriculture industrielle, Mesdames, Messieurs les députés, je l'ai en travers. Vous qui n'avez pas voulu ou pas pu inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate, vous êtes à mes yeux devenus les complices des dirigeants des transnationales et des dirigeants de la FNSEA. Vous êtes les complices d'un empoisonnement collectif. Pensez aux enfants qui suivent des cours dans des écoles proches des vignes traitées chimiquement. Pensez aux riverains, pensez aux consommatrices et aux consommateurs qu'ils continueront à empoisonner avec votre assentiment. Pouvez-vous en toute franchise vous regarder dans une glace sans penser que grâce à votre inertie, des gens vont mourir à cause de cet herbicide et à cause des milliers de tonnes de pesticides qui sont déversés chaque année? Vous êtes les complices d'une agriculture mortifère. Mais peut-on s'étonner quand la ministre de la maladie impose à des bébés X fois 11 vaccins? Vivez-vous hors sol et en complète déconnexion avec la réalité? Vous pensez-vous intouchable et à l'abri d'un empoisonnement organisé? Je m'interroge et je vous pose la question. Oserez-vous encore vous lever chaque matin et vous regarder dans un miroir? Êtes-vous consciente et conscient du mal que vous propagez en baissant les bras? Permettez-moi de vous dire tout mon écœurement. Mais heureusement, comme nous l'avons dit vendredi matin dans le cadre de l'émission Traversée, nous le redisons dans « Et si demain ce soir ?», heureusement, des foyers de résistance s'organisent, comme c'est le cas de l'association Cocopelli. Bonsoir, Ananda Guillet.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'émission « Et si demain ?». Alors, un grand événement va se passer très prochainement, puisque c'est le week-end qui arrive, 8, 9 et 10 juin, au Mas d'Asile. Alors, est-ce que tu peux en deux mots nous rappeler ce qu'est Cocopelli et que va-t-il se passer?
Oui, bien sûr. Alors, Cocopelli, c'est une association qui lutte pour la préservation des droits de semer librement, du droit de semer librement. Alors, je m'entends en écho, je suis un peu désolé, c'est un peu perturbant pour parler. Et effectivement, le week-end prochain, le week-end qui arrive, on organise un grand festival qui va réunir tout un tas d'intervenants qui vont parler de semences libres, d'agroécologie, mais même de vannerie ou d'holacratie. Donc, on essaye d'allier vraiment l'aspect écologique et social, et l'aspect culturel, parce qu'il y a aussi des concerts le soir, avec notamment Camille, qui va nous rejoindre pour le samedi soir, Sona Jobarté, Bissi aussi, qui vient d'Afrique du Sud. Donc voilà, on essaye de faire un grand événement autour de ces luttes qu'on mène depuis 20 ans.
D'accord. Alors, je vais passer la parole à mon ami Landy Sela. Non, si tu as des questions à poser quand même, Landy. Ami et confrère donc de l'émission Et si demain sur Esprit Occitanie.
Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu à la mode. Il y a pas mal de commerce, en fait, au niveau des graines bio par là, graines bio par là, biodynamie, etc. Est-ce qu'on n'abuse pas un peu avec le mot bio ? Quelle est la différence avec Cocopelli ?
Bon, c'est tout un débat, en effet, c'est une très bonne question, parce que quand l'association a commencé... Donc l'association a presque 20 ans, vu qu'elle a été créée en 99, mais c'est le fruit de quasiment 30 ans de travail, ou 35 ans de travail de Dominique. Il y avait Terre de Semences avant et le Jardin Botanique. C'était vraiment très marginal, et en fait, on était vraiment pourchassés et harcelés pour ce travail de préservation de la biodiversité, de mise à disposition gratuite et commerciale de semences qui étaient et qui sont toujours non inscrites au catalogue européen. Et en fait, Cocopelli a servi de fer de lance un peu de ce combat juridique et médiatique, et on a ouvert des brèches un peu partout finalement. Et c'est vrai que, étant donné que ce combat il a une forte résonance auprès de tout un chacun, parce qu'on en a marre de mourir de cancer, comme dans l'édito de Christian, enfin évidemment, tout le monde est très sensible à ça. Et c'est logique, il y a tout un tas d'industriels et tout un tas de structures qui s'engouffrent dans cette brèche que Cocopelli et d'autres associations ont ouvert il y a de ça quasiment 20 ans. Donc c'est une très bonne question, et après l'agriculture bio c'est encore autre chose. Pour nous c'est important de bien différencier. L'agriculture bio, ça ne veut pas dire que des semences libres sont utilisées. 95% quasiment de l'agriculture bio à l'heure actuelle utilise des hybrides F1. Donc ça, très peu de gens le savent, parce qu'effectivement, derrière le mot bio, on a l'impression que c'est un maraîcher avec une binette et un chaque pot de paille qui va cultiver ses trois carottes. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. C'est des chiffres d'affaires qui sont colossaux à l'échelle de l'Europe. Et évidemment, c'est des industriels qui se sont emparés depuis quasiment 10 ans de l'agriculture bio. Donc, Cocopelli, on a publié des articles sur le site qui s'appelle La bio piratée, et qui détaille très bien cet état de fait, en fait. Ouais.
Aujourd'hui, qui sont les acheteurs de vos graines, de vos semences ? En fait, c'est les jardiniers amateurs ou il y a des professionnels aussi ?
Bon, alors il y a très peu de professionnels, mais de plus en plus quand même. Mais on doit être à 90% de jardiniers amateurs, je pense. Voilà, mais la loi est en train d'évoluer, en fait. Donc, à l'Europe, le nouvel réglementation de l'agriculture bio vient d'être adopté. Et dans les horizons 2021, les agriculteurs bio professionnels devraient être autorisés à reproduire et même à commercialiser des semences non inscrites. Et on est en train d'essayer de faire évoluer aussi la loi française. Mais voilà, ça, clairement, ça ne change pas le fond du problème agricole, en tout cas.
En parlant de loi, il y avait une période où on concernait en fait les graines interdites à la vente, parce qu'elles ne faisaient pas partie des catalogues, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus pour nos auditeurs ?
Oui, bien sûr, c'est toujours le cas. En fait, après, c'est relativement compliqué à expliquer en raccourci, mais en effet, depuis les années pétées, en fait, depuis 1941, il y a un catalogue national qui existe, donc qui est maintenant un catalogue européen, mais c'est la France qui a imposé avec l'UPOV, etc., c'est un peu sa loi sur l'Europe. Mais oui, depuis cette époque, il y a un catalogue, et en fait, les semences qui ont le droit d'être distribuées à des fins commerciales, mais c'est même un peu plus complexe que ça, doivent être inscrites dans un catalogue et répondre à des normes DHS, donc distinction, homogénéité et stabilité génétique. Et en fait, très globalement, pour résumer, en quelques décennies, les agro-industriels, qui sont les enfants, pour ne pas dire les mêmes, dans le cas de Bayer, par exemple, des industriels de la guerre qui fabriquaient le zyklon dans les chambres à gaz, les bombes avec l'ammoniac de synthèse, etc. Ces industriels se sont concoctés un nid douillet, en fait, au niveau de la semence et de l'agriculture en règle générale, et ont dicté petit à petit leurs lois pour créer un marché totalement captif. Et donc, oui, préserver des semences, il y a de ça à peine un siècle, On n'en parlait même pas tellement c'était naturel dans une ferme, évidemment, parce que enfin, on gardait toujours la meilleure partie de la récolte pour la ressemer l'année d'après en faisant une sélection massale dans les cultures, etc. Et c'est comme ça que l'agriculture, qui est maintenant datée à quasiment 45 000 ans avec les nouvelles découvertes en Amazonie, a fonctionné depuis tout ce temps. Donc, en une fraction de seconde à l'échelle de l'agriculture, les agro-industriels ont littéralement tout massacré vu qu'on a perdu 75% de la biodiversité cultivée selon la FAO.
Alors, le souci, c'est qu'aujourd'hui, notamment en France, il y a un État dans l'État, je les ai cités tout à l'heure, ce sont les dirigeants de la FNSEA qui sont quand même, alors que soi-disant, ils défendent le petit, ils défendent plus les gros. Et moi, je m'étonne toujours quand je vois des tracteurs dont les roues sont énormes et ils sont dans des cabines où il y a des ordinateurs, il y a de tout, il n'y a plus de connexion avec l'élément, la terre, le vivant. Ananda ? Ah, nous l'avons perdu. Je crois que nous l'avons perdu.
C'est des allô.
Oui, oui. Ah, voilà. Est-ce que tu m'as entendu ? Oui.
Oui, je t'ai entendu. Alors, je m'entends en double, c'est assez compliqué.
D'accord.
Et en effet, on a dépossédé les agriculteurs de leur métier, en fait, tout simplement. Le lien à la terre, comme tu dis, a été quand même relativement perdu. Et surtout, oui, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marie-Monique Robin qui parle de la FNSEA, qui dit « La FNSEA, c'est le seul syndicat qui tue ses adhérents. »
Oui, bravo. Oui, c'est vrai. Elle a tout à fait raison. Marie-Monique Robin, que nous avons eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises, qui a fait un énorme travail au niveau de l'information. Et ça aussi, c'est très important. Et après, moi, en tant que simple citoyen, je m'étonne et je m'insurge contre le fait qu'ils sont en train de breveter le vivant à toutes les échelles. Ils nous tiennent complètement poings et pieds liés, enfin, si nous ne nous révoltons pas dans notre âme et dans nos actions. Et demain, s'ils veulent affamer un peuple, ils ne fournissent plus les semences.
Oui, ils ne fournissent plus les semences, mais c'est même, ça ne se limite pas, même pas à ça, parce qu'en fait, la semence, c'est vrai que c'est le premier maillon de la chaîne. Alimentaire des civilisations sédentaires, donc de nos civilisations, de la majorité de nos civilisations actuelles. Mais en fait, je le dis souvent dans mes conférences, une semence, aussi fertile soit-elle, si on la sème dans un sol mort et désert, c'est un embryon de vie sans futur, donc ça ne donnera absolument rien. Donc en fait, ils tiennent les semences, c'est vrai, ils ont une mainmise sur les semences, mais ils ont surtout imposé une méthode agricole basée sur la guerre et basée sur la destruction. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est 800 tonnes de sol arable qui partent en érosion chaque seconde sur la planète, de par des méthodes agricoles qui sont totalement mortifères, encore une fois. Donc ça va même au-delà d'avoir simplement imposé cette mainmise sur les semences. Et c'est vrai que le travail, dit comme ça, c'est assez déprimant, mais en fait, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des foyers de résistance qui se mettent en place, il y a un énorme travail au niveau de l'agroécologie qui est fait, il y a un énorme travail au niveau des lanceurs d'alerte. Donc en fait, à l'heure actuelle, les citoyens, et c'est quasiment sur toute la planète, ont les outils en fait à disposition, surtout avec Internet maintenant, pour changer les choses. Maintenant, c'est une question de volonté, très clairement, et c'est une question de ne plus faire confiance du tout au monde politique, parce que c'est pas dans leurs intérêts de faire évoluer ces situations, vu que c'est les lobbies qui mènent le monde de toute manière, et que c'est les multinationales qui payent les politiques, qui payent leurs campagnes et qui font leurs lois, et à plus haute échelle, les banques évidemment, mais tout ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a des foyers de résistance, et clairement, il faut y croire, et il faut faire avancer les choses de cette manière.
Et vous parlez du monde politique. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la classe politique en France et en Europe et dans le monde au plus large ?
Personnellement, absolument rien.
Oui.
En fait, je ne crois pas à ce système-là. Je n'ai jamais voté de ma vie. Notre action, on l'a fait sur le terrain. Parce que si Cocopelli avait attendu en fait, de la classe politique qu'on a alerté depuis les débuts du travail de l'association, qu'on nous autorise à faire notre métier, à faire le métier qu'on pratique aujourd'hui et qui est un métier d'utilité publique, et on devrait être reconnu d'utilité publique et d'intérêt général, mais on ne l'est pas évidemment. Si on les avait attendus, on ne serait pas là à parler aujourd'hui et on aurait perdu énormément de variétés que Cocopelli multiplie et préserve chaque année. Donc personnellement, je n'attends absolument rien. On agit. Et on agit en toute illégalité si besoin en est. Et pendant 20 ans, on a travaillé en toute illégalité. Et personnellement, et beaucoup de sympathisants de Coupopélie le font aussi, quand on voyage à l'étranger, on fait des doubles fonds dans les sacs de couchage et dans les valises et on passe des graines illégalement sur toute la planète afin de repeupler des pays du Sud, par exemple, qui ont été encore plus que nous totalement massacrés. Et c'est le mot, et je pèse mes mots, c'est même un mot qui n'est pas encore assez fort, mais qui ont été massacrés par l'agro-industrie.
Et quels sont les gestes que vous attendez en fait de la part des citoyens en France pour vous aider dans votre combat?
Ah, alors c'est assez simple, je dirais jardiner, parce que en fait, même au-delà de jardiner, c'est reproduire ses semences. En fait, pour nous, c'est vraiment au-delà d'un acte qui va aller vers l'autonomie, c'est un acte de résistance, parce que évidemment, dans une société basée sur le commerce, une société mercantile, l'autonomie, c'est un blasphème, c'est le plus grand blasphème. Et en fait, ce qu'on attend des citoyens, c'est qu'ils dynamisent ces foyers d'autonomie et qu'ils les créent, et que des associations se montent, des associations de jardiniers, de producteurs de semences amateurs ou professionnels, etc. Et qu'en fait, on se réapproprie ce savoir qu'on a perdu, ce savoir en plus de la biodiversité qu'on a perdu en à peine un siècle. Et c'est à toute petite échelle que ça se passe, tout ça. C'est à l'échelle d'un village, d'une communauté, d'un groupe d'agriculteurs, etc. Et c'est comme ça qu'on va avancer, en tout cas, à mon avis.
Parce qu'aujourd'hui, on a perdu... Excusez-moi, Christian, je te coupe ça fait deux fois que je te coupe la parole. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu le réflexe de donner des graines, d'échanger. Est-ce que d'un point de vue légal, est-ce que je peux, en tant que jardinier de dimanche, je peux donner et je peux échanger des graines sans problème, même s'ils ne font pas partie des catalogues?
Oui, bien sûr. En fait, la réglementation s'applique à la commercialisation de semences et de plants uniquement. Donc le don, l'échange, etc., oui, il n'y a aucun problème. C'est même à encourager, évidemment. Après, c'est dans l'intérêt de l'État et des multinationales de maintenir un flou total et de faire penser que tout ça est interdit. Mais non, il n'y a pas de souci.
Je ne vous apprends pas quelque chose, mais vous le savez mieux que nous et mieux que moi. Mais autour de moi, j'interroge des personnes qui jardinent et ils ne se rendent pas compte, ils ne font pas la différence entre les graines et les plants hybrides. Et les graines, en fait, bio, les graines qu'on peut s'aimer d'une année sur l'autre. Est-ce que vous pouvez, en deux mots, résumer pour nos auditeurs, en fait, la différence et pour donner une explication, une définition de ces graines et ces plants hybrides?
Oui, en fait, les hybrides F1, donc hybrides de première génération, mais qui est un défaut de langage, parce que l'hybridation, dans la nature, elle est totalement naturelle. En fait, on ne devrait pas utiliser le mot hybride, mais plutôt hybride stérile ou dégénérescent. Donc, ces hybrides ont été créés pour répondre aux besoins de l'industrie de créer un marché captif. Il ne fallait pas que les plantes puissent se reproduire librement et gratuitement dans un champ ou dans un jardin. Vous imaginez un vendeur de chaussures qui va voir les chaussures se multiplier toutes seules sur l'étagère du consommateur. C'est évidemment un désastre. Donc, ces hybrides ont été créés de cette manière que, en fait, c'est des clones. C'est compliqué à expliquer en deux mots parce que c'est des notions un peu agronomiques. Mais on va dire que vous prenez deux lignées parentales génétiquement assez éloignées et vous les sélectionnez, vous les reproduisez, pardon, de manière consanguine. Et en fait, vous allez appauvrir un réservoir génétique très très fort. Et à un moment, vous recroisez ces deux variétés appauvries. Et là, vous allez avoir une explosion de gènes qu'on va appeler hétérosis ou vigueur hybride. Et l'industrie s'est basée sur cette propagande-là en disant qu'à ce moment-là, on obtenait une variété très très productive ou très résistante ou résistante à la sécheresse ou à l'excès d'humidité, etc. Et en fait, leur objectif était surtout de proposer des variétés qui devaient pousser avec toute une panoplie de produits chimiques et d'engrais de synthèse pour pouvoir survivre. Donc, la grande différence entre les variétés libres et les hybrides F1, elle est très simple, c'est qu'un hybride F1 ne peut pas se reproduire parce qu'il va offrir une descendance qui va être dégénérescente ou totalement improductive. Et une variété libre, au contraire, elle va se reproduire et elle va transmettre à sa descendance en fait les informations phylogénétiques des parents. Donc, par exemple, la courbe du soleil, le temps de photosynthèse, le type de sol, la pluviométrie, etc. Tout ça, c'est des données qu'elle va transmettre à sa descendance et les plantes vont s'adapter à un terroir et elles vont être de plus en plus résistantes, de plus en plus productives et adaptées. Et en fait, tout ça, ça va évidemment à l'encontre des besoins de l'agro-industrie qui, eux, veulent vendre chaque année de nouveaux produits pour faire pousser les cultures. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu
oui,
brouillon.
Pour moi, en tout cas, c'est, oui, ouais. C'est très clair. Je ne peux pas expliquer aussi bien que vous, mais en fait, moi, je fais le test. Donc, je sais, en fait, je connais les résultats. Donc, j'essaye avec mes mots d'expliquer à des gens que je croise au quotidien qui font du jardinage. Et voilà, donc... Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui des gens qui aiment bien le jardinage et qui n'ont pas la connaissance vraiment de ces plants et de ces graines qui ne peuvent pas le reproduire et ils ne connaissent pas forcément. Donc.
Non, bien sûr. Mais ça, juste en deux mots, d'ailleurs, ça devrait être appris à l'école dès le plus jeune âge, en fait, parce que c'est ce qui tient nos civilisations, la semence et la reproduction des plantes. Et en fait, si personne n'y comprend rien, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça a été maintenu volontairement dans un flou total, en fait, derrière un rideau de fumée.
Et on peut dire que l'hybride, c'est un petit peu le parent de l'organisme génétiquement modifié après, derrière, et tout ce qui suit. Et nous avons en deux mots, donc il y a plein de choses qui vont se passer les 8, 9 et 10 juin au Mas d'Asile avec Cocopelli. Je salue au passage Bernard Bertrand qui avait créé les éditions de Terran. Mais il y a Christian Bello, bien sûr, un des chercheurs qui dénonce la culture des OGM en plein champ et qui a vu ses crédits de recherche coupés. Il y a aussi Pierre Berland et plein de belles personnes. Ananda Guillet, toi aussi tu interviens. Et puis il y a une chose aussi... qui n'a pas été dite peut-être, mais là on s'étonne, alors c'est vrai qu'il pleut et il pleut trop en ce moment en France, mais s'il y a autant d'inondations, c'est peut-être qu'il y a aussi énormément de terres mortes, que les haies ont été supprimées, que donc le vivant n'est plus là, et du coup, l'eau quand elle passe, elle arrase tout.
Ah ouais, ça c'est d'une évidence affligeante, et en fait... ne serait-ce que les vers de terre, un vers de terre qui va creuser 5000 km de galerie à lui tout seul par année, une fois qu'on a assassiné tous les vers de terre, la terre en fait n'infiltre plus l'eau et les inondations, bah, et oui, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des glissements de terrain un peu partout, qu'il y ait des inondations qui arrivent dans les villages un peu partout parce que les terres sont compactes et mortes en fait tout simplement. Toute la microfaune, la microflore, les micro-organismes, les nutriments, etc. du sol ont été totalement lessivés par les quantités de produits chimiques et de glyphosate par exemple qu'on utilise massivement. Le glyphosate, juste pour rebondir avec ton édito tout à l'heure, c'est l'amiante de demain, mais c'est même l'amiante d'aujourd'hui. Et encore, on ne parle que de glyphosate, on ne parle même pas des métabolites dégradés, qui résultent de la dégradation du produit, qui sont encore quasiment plus présentes que le glyphosate. Donc c'est clair et net, on massacre les sols. On massacre les sols et évidemment, quand il pleut trop, comme c'est le cas en ce moment, et ben, on perd tout. On perd tout parce que les nutriments sont ravinés dans les rivières, etc. Et c'est assez désastreux, en effet. Ouais.
Merci Ananda Guillet de nous avoir consacré un peu plus d'une vingtaine de minutes pour parler de ce festival, de cette réunion, de la vie qui est essaimée, notamment au Mas d'Asile avec Cocopelli, et au plaisir bien sûr de te retrouver.
Un grand plaisir, merci beaucoup pour l'accueil.
Merci à toi.
Merci.
Voilà, donc nous avons semé des graines et du coup, je vois de belles plantes dans le studio qui sont là. Avec plaisir. Alors, Anouk Jordan, tiens, première question. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée dans dans la compagnie A et les tréteaux du Capitole, et pour justement présenter après aussi un spectacle les 8 et 9 et 10 juin avec le soleil?
Eh ben, moi, je suis toute nouvelle Toulousaine et j'étais en recherche d'un stage dans la diffusion et la communication. Et donc, j'ai pu rencontrer Pierrot Corpel, qui est directeur artistique de la compagnie, qui m'a tout de suite donné envie. Il est plein de projets, il est plein d'énergie et plein de bonne volonté. Donc, avec tous ces projets qui venaient, entre donc, les tréteaux du Capitole, je laisserai mes collègues ici présentes les présenter. Et puis Avignon, qui arrive aussi à grands pas, puisqu'on sera à Avignon tout le mois de juillet. Je me suis dit que voilà, c'était le meilleur moyen de me rendre utile et de m'investir dans toute cette partie communication.
D'accord. Donc, tu as suivi des études de communication. Tu t'es intéressé de suite à la culture, au théâtre. Tu t'es dit, ça, c'est ma voie. Tout ce qui est la finance, le droit et compagnie, ça ne m'intéresse pas. Non,
ce n'était
pas tout à fait ça au départ.
Au départ, j'étais en économie droit. C'était beaucoup plus... beaucoup plus théorique, et en fait je me suis dit que c'était pas pour moi, que je voulais être dans un milieu un peu plus fun et un peu plus artistique, un peu plus sympa, et je suis très vite tombée dans le spectacle vivant, et en arrivant à Toulouse, voilà, c'est la compagnie, je l'ai découvert assez rapidement et je me suis accrochée.
Alors Je ne veux pas être indiscret, mais tu viens de quelle région ?
Moi, je suis de Montpellier, j'ai étudié à Lyon et je suis arrivée à Toulouse cette année.
D'accord, donc tu as fait un petit périple voilà. Et finalement, après, tu es revenue en Occitanie, Montpellier en Occitanie, Toulouse en Occitanie.
Mais oui, maintenant, on est une nouvelle région, on est tous ensemble, donc on revient aux terres natales.
D'accord, merci. Allez, je me retourne alors vers Clémentine Laffa.
Oui, donc rebonsoir.
Rebonsoir. Donc toi, tu es à l'origine aussi comédienne, prof de théâtre, si mon petit doigt ne m'a pas menti.
C'est ça, moi j'ai suivi une formation dans le théâtre, en mise en scène, j'ai eu une compagnie pendant un moment, et à la fin de mes études, j'ai eu envie d'être dans ce milieu-là. Donc j'ai postulé pour Art en Ciel, qui est une association liée à la compagnie A, pour donner des cours de théâtre aux enfants. J'ai tout de suite aimé l'ambiance, ça s'est très bien passé avec Pierrot Corpel qui avait une super énergie. Donc ça m'a donné envie d'être dans cet accompagnement pédagogique et artistique. Et il y avait besoin aussi de faire un peu de communication. Et j'ai vu la pièce qu'on va jouer au Tréteau du Capitole qui s'appelle Les Fâcheux. J'ai adoré cette pièce d'un point de vue spectateur et d'un point de vue artistique. Donc j'ai vraiment eu envie de m'investir dans la communication de cette compagnie pour qu'elle puisse évoluer encore plus.
D'accord. Et du coup, tu abandonnes ton métier de comédienne ?
Non, je le fais toujours en parallèle.
D'accord. C'est important aussi. Et donc, il reste Camille Cabarrot. Toi, tu viens d'où et tu as atterri comment, à la compagnie A ou les Tréteaux du Capitole ?
Je viens de Toulouse. Après, j'ai fait ma licence ici en faisant une licence événementielle. Puis, je suis partie à Avignon pour faire un master médiation de la culture et des patrimoines. Et je suis revenue pour faire mon stage du coup, de fin de master 2 avec la compagnie A, qui part d'ailleurs du coup, au Festival d'Avignon, la ville où j'ai fait mes études. Et l'événement Les Tréteaux du Capitole, ça permet de joindre les médiations culturelles que je fais dans mon master, c'est-à-dire culture et patrimoine. Donc, c'est dans un lieu, dans une cour qui est hyper jolie, qui est à côté de la place du Capitole et de la rue du Thor. C'est la cour de l'hôtel Ibis qui a été rénovée récemment. Et du coup, les 8, 9 et 10 juin, on organise les Tréteaux du Capitole. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une saison culturelle qui propose cette année Les Fâcheux de Molière, donc le spectacle avec lequel la compagnie part au Festival d'Avignon. Et ça sera donc ce week-end, les 8, 9 et 10 juin.
Très bien, je passe le relais à Landy qui a plein de questions à vous poser aussi.
Et parlons un peu de cette pièce, Le Fâcheux, c'est une pièce revisitée.
Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Les Fâcheux ?
Moi, non.
Ça ne m'étonne pas. Moi non plus, avant de voir la pièce, ça ne me disait rien. C'est une pièce de Molière qui n'est plus connue du tout à l'origine. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque de Molière, c'était l'une des pièces qui était la plus jouée à la cour du roi. Parce qu'elle est hilarante, parce qu'elle est pleine d'esprit, et c'est vrai qu'elle est tombée un peu aux oubliettes. Et donc, cette pièce a été reprise par la compagnie A avec Pierrot Corpel et des comédiens pleins d'énergie qui sont absolument géniaux. Et effectivement, c'est remis au goût du jour, parce que Molière, c'est très contemporain. C'est juste qu'il faut savoir comment le remettre au goût du jour, et c'est des questionnements qui nous concernent aujourd'hui. Molière était quand même très politique à l'époque. Il l'est toujours maintenant, mais évidemment, il faut moderniser la chose, il faut moderniser le spectacle, et c'est ce que la compagnie a fait en proposant ce spectacle.
Donc le texte, c'est gardé en
Le texte est gardé en l'état, c'est en alexandrin.
D'accord. Ah oui, donc déjà pour la mémoire, pour apprendre, c'est hard, il faut partir d'assez loin.
Alors ça demande une bonne performance de comédien, je pense. Par contre, en tant que spectateur, au départ, c'est un peu étrange parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre des alexandrins. Mais au final, ça devient très vite naturel. C'est assez marrant comme expérience.
Et comme au temps de Molière, en fait, il y a un seul comédien qui joue plusieurs personnages ou
Exactement, il y a un comédien qui joue tous les fâcheux.
D'accord. Il y a combien de...
De fâcheux de... Ouais. Il y en a sept, il me semble. Ouais. 7 ou 8. Il y en a pas mal.
D'accord. Et les comédiens qui participent, c'est les mêmes les 3 jours ?
Oui. Oui, oui. D'accord. C'est tous les comédiens qui jouent dans les fâcheux pour les Tréteaux du Capitole, c'est les mêmes pour les 3 jours.
D'accord. Je vous souhaite pas, mais s'il y a un malheur, un comédien, comment on fait ? Les autres, ils peuvent prendre le relais sans problème ? On en parlait au niveau des...
Oui, je pense qu'il y aura moyen de s'arranger. Il fera beau, il n'y aura pas de soucis avec les comédiens, tout se passera bien.
Le 8, 9 et 10, vous êtes sur Toulouse, vous restez en fait que sur ces trois dates sur Toulouse, ou vous avez prévu dans d'autres endroits sur Toulouse d'avoir plus de...
En fait, là, on joue les fâcheux le 8, 9 et 10 pour l'inauguration des Tréteaux du Capitole.
D'accord.
Et en fait, dans le cadre des Tréteaux du Capitole, on va jouer... ça a vocation à jouer toute l'année, en fait. Pas uniquement la Compagnia, mais donc là, on va jouer en juin et on rejouera un autre de nos spectacles, Les Précieuses Ridicules, de Molière aussi. On jouera en septembre, toujours dans le cadre des Tréteaux du Capitole. Et en fait, c'est le nouveau gros projet de Piero Corpel, donc directeur artistique. Et ça a vocation à accueillir des spectacles toute l'année au sein de cette cour, mais aussi d'autres bâtiments un peu clés à Toulouse. Et donc on jouera un peu tout le long de l'année.
Il y en a d'autres bâtiments et lieux vraiment très... chargé d'histoire sur Toulouse, c'est pour ça que je vous ai demandé, vous n'avez pas fait peut-être une prévision de faire plus, parce que vous allez rester même après le Festival d'Avignon sur Toulouse.
Oui, la Compagnia est vraiment une compagnie locale, toulousaine. L'objectif des Tréteaux, c'est justement d'affirmer cette identité locale et les Tréteaux du Capitole. Donc on va, comme le nom l'indique, on va vraiment jouer sur les Tréteaux en bois. Donc c'est une scène qui pourra être déplacée dans d'autres lieux. Et donc on va essayer d'investir d'autres cours, d'autres lieux emblématiques de Toulouse qui permettront de mettre en valeur le patrimoine qu'on a en centre-ville ou pas d'ailleurs, mais dans la ville, qui est magnifique et qu'on peut complètement investir avec nos spectacles ou voir d'autres spectacles.
Et vous pouvez, vous avez envisagé de quitter Toulouse plus tard avec avec la même pièce ou pas ?
Il y a des tournées qui sont prévues.
D'accord.
Donc Avignon au mois de juillet et puis à La Réunion dans le cadre du Festival Comédie.
D'accord.
Donc là, ce ne sera pas tout à fait la porte à côté. Il ne faudra pas y aller à bicyclette. Sinon, ça risque d'être un peu long. Tu parlais à Anouk tout à l'heure de changer de lieu. Pourquoi pas d'ailleurs à l'Hostal Occitan, puisqu'il y a une cour. Bon, vous avez vu une première cour là, mais il y en a une seconde où il y a des pauses musicales qui sont organisées.
On a vu en cherchant le studio, on est tombé dans cette cour qui est, c'est vrai que c'est très joli. On a vu que il y avait un sacré potentiel, bah pourquoi pas, on garde l'idée en tête, ce sera avec plaisir.
C'est pour cela que je disais, à Toulouse, il y a beaucoup c'est de lieux. Chaque fois qu'on pousse une porte, on se retrouve
exactement,
vraiment derrière.
Exactement, même en pensant... parce que la cour dans laquelle on joue a été rénovée il y a très peu de temps, il y a moins d'un an. Avant, c'était en travaux longtemps. Et en fait, ils ont eu un prix de rénovation de la part de l'association les Toulousains de Toulouse et les Amis du Vieux Toulousain. Et cette association est reliée au musée du Vieux Toulousain. Et cette cour aussi du musée est magnifique, qui est juste à côté d'Esquirol. C'est très joli aussi. Donc pourquoi pas jouer là-bas ou d'autres. Les idées sont... on prend les idées.
Comment on peut vous trouver pour acheter des places? Je mets à la place des auditeurs. Comment on fait
Il y a la page Facebook qui s'appelle La Compagnie A. Où dessus, il y a l'événement, justement, Les Tréteaux du Capitole, où il y a tous les renseignements, il y a une billetterie en ligne, ou sinon, il y a le numéro de téléphone et une adresse mail.
Vous pouvez les donner, hein, vous profitez de...
D'accord.
Donc, du coup, l'occasion.
L'adresse mail, c'est réservation.lacompagniea@gmail.com et le site de la compagnie, c'est la-compagniea.com avec toutes les informations dessus, et vous aurez la billetterie en ligne qui sera indiquée.
Spécifie juste quelque chose parce que ça ne s'entend pas. L'adresse de réservation, c'est réservation avec un S.
Oui. Donc, je vais répéter, réservation au pluriel.
Avec
point,
un S.
Point la compagnie @gmail.com. Voilà, c'est...
Pourquoi on doit venir ce week-end-là voir vraiment le fâcheux?
C'est un lieu assez innovant, qui est une cour donc très jolie, qui est vraiment à voir. C'est sur des tréteaux qui vraiment s'est joué. C'est vraiment ancien, ça fait On a un super décor aussi qui est à porter sur la scène, qui est très, très réfléchi. C'est des engrenages. Et vous comprendrez pourquoi en venant ce week-end voir la pièce, pourquoi il y a ça. Mais c'est un super décor avec des lumières, etc. Et c'est très intéressant de le voir. Et dans une cour pareille, en plein cœur de Toulouse, avoir une saison culturelle, c'est quand même une grande chance. On espère que le temps sera avec nous. Mais en tout cas, proposer du théâtre en plein air à Toulouse, c'est quand même une très chouette idée.
Et la mise en scène, c'est...
J'ai une question pour vous d'abord.
Oui.
Vous aimez rire ?
Oui. Ben oui.
Et ben voilà, ça fait une très bonne raison de venir voir les Fâcheux le 8, 9 et 10 juin.
D'accord, Lège.
Oui.
On y va.
Alors,
la mise en scène, parce que je regardais sur votre flyer que c'est Pierre Corpel qui.
Oui, tout à fait.
Donc il est connu, donc les amateurs de théâtre de Toulousain, ils doivent vous connaître bien. Et les acteurs, vous avez les noms, les prénoms?
Alors oui, on a les noms. Donc majoritairement, ce sont des acteurs qui sortent de l'EDA, qui sont formés à un théâtre très corporel. Mm-hmm. Et effectivement, dans la mise en scène, ça se ressent, il y a énormément de chorégraphie, c'est très corporel, très visuel. Et je vais laisser la parole à Anouk, qui a les noms des comédiens.
Alors, il y a Sylvain Borins. Donc, c'est lui qui joue tous les rôles des fâcheux, qui prend le rôle que jouait Molière. Donc, pas des moindres challenges. Magali Lopez, aussi, qui joue donc, le rôle d'Orphise. Loïc Carcassès, qui joue le rôle d'Eraste, qui va être en duo avec Camille Mauger aussi, qui va jouer sur un des trois jours. Ibrahim Hajtayeb, pardon, j'avais plus son nom en tête, qui joue donc La Montagne. Et j'oublie quelqu'un. Voilà, Pierrot Corpel, qui est donc le metteur en scène et qui est sur scène sur le plateau pour faire la musique en live sur le plateau.
Et on a aussi une chorégraphe qui s'appelle Neige Salinas, très talentueuse aussi, et une très très bonne costumière qui a un nom, alors excuse-moi Sophie si j'écorche ton nom, Sophie Plaswick.
D'accord, alors question subsidiaire, et après nous marquerons une pause en chanson et nous irons faire un tour sous les pavés, la jungle. C'est un roman donc, de Simone Gellin paru aux éditions Kern, mais auparavant... Clémentine Lafat, qu'est-ce qui a fait que tu es tombée, on va dire, dans le bon chaudron, peut-être, du théâtre, au départ ?
Au tout départ ? Eh bien, j'étais en études de communication, à l'origine. J'avais validé mon DUT, donc ça m'avait beaucoup plu. Mais j'avais envie de refaire du théâtre depuis un moment, parce que j'en faisais petite. Et j'avais intégré une compagnie de théâtre amateur étudiante. On a monté une pièce qui s'appelle Barbe Bleue, mélangée au mythe de la comtesse de Bathory. Et j'ai été intégrée dans ce projet, je jouais la méchante comtesse Bathory. Et on était en résidence, et on avait des horaires très 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 très, très durs. On se levait à 7h du matin, on finissait à 21h. Et ça ne m'avait jamais posé aucun souci, pendant ces résidences, de faire des journées de 12 heures, de pratiquement pas avoir de pause pour manger. Et du coup, je me suis dit, bon... j'ai 15 heures de cours par semaine, j'y vais pas. Par contre, ça ne me pose pas de souci de passer mes journées à bosser pour le théâtre, donc je vais faire du théâtre. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis lancée là-dedans.
Vous avez eu raison.
J'espère.
Et donc, à titre personnel, est-ce que tu as des projets de réintégrer une compagnie ou de jouer avec la compagnie A, par exemple ?
Alors pour la compagnie A, je suis vraiment embauchée en tant que chargée de communication.
D'accord.
Et en tant que professeure de théâtre, donc dans le pôle pédagogique. Après, à côté, j'ai effectivement ma compagnie à moi.
Qui s'appelle ?
La compagnie Lumière Crue. On pourra en parler après si vous le souhaitez.
D'accord. Nous le souhaitons. Allez, nous marquons une pause en chanson avec Marianne Colombier qui était venue chanter en direct notamment dans l'émission Traversée, mais que Irène Finkel aussi, que je salue au passage, a invité aussi sur Esprit Occitanie. Et c'est grâce à Irène d'ailleurs qui a rencontré au départ Anouk que la compagnie A est représentée aujourd'hui dans le studio. Allez, à tout de suite, nous écoutons Marianne Colombier et nous allons faire un tour au téléphone avec Simone Gellin.
Aurais-je assez de larmes ? Mon ami est parti,
Il m'a laissé sans armes face à ma tragédie. Il était revenu quand mon amour m'a fui. Sa présence ténue réconfortait mes nuits. Aurais-je assez de larmes? Mon ami est mort, il est rompu le charme de ses paroles d'or. Il disait, toi qui chantes, entonne ton chagrin, transforme ta tourmente en dièse cristallin. Aurais-je assez de larmes? Mon ami dort en paix, lui par qui le vacarme des démons s'apaisait. Ni juge ni parti devant l'enfer des autres, c'était de l'empathie qu'il s'était fait l'apôtre. Aurais-je assez de larmes? Mon ami n'est plus, lui qui sonna l'alarme de la déconvenue. Et mon espoir s'effondre qu'aux questions en suspens il puisse un jour répondre. Mais son départ m'apprend que ce que je dois faire, c'est déposer mes doutes dans ce coin de la terre et continuer ma route. Mes yeux séchés vos pleurs, mon ami est vivant, sa mémoire en mon cœur bat comme l'océan.
Bonsoir, bonjour si vous voulez, pourquoi pas, bien que aujourd'hui le ciel est sombre en direct dans l'émission, et si demain, alors qu'il n'est que à la pendule d'Esprit Occitanie, 17h45, oulala, ça doit être très noir dehors, on entend la pluie tomber, peut-être derrière les vitres du studio, et nous sommes donc toujours en direct pour parler de théâtre, mais nous allons parler aussi de romans dans quelques instants. Et donc, en attendant d'avoir notre écrivaine au téléphone, Simone Gélin, eh bien, question donc Clémentine Lafa, est-ce que tu peux nous rappeler donc le nom de ta compagnie? Est-ce qu'il s'y fait?
Alors, je vais vous rappeler le nom de ma compagnie, mais après, si vous le souhaitez, on pourra revenir aussi sur les fâcheux et
bien
sur
sûr,
la compagnie.
Bien sûr, sans souci, hein, pas de problème.
Alors, le nom de ma compagnie, c'est la compagnie Lumière Crue, et on fait du théâtre contemporain, bouffonnesque. Voilà, donc c'est quelque chose de très, très, très différent.
Ce sera un sujet pour une autre émission.
Pour une prochaine émission, oui, voilà, avec plaisir.
Donc, un théâtre complémentaire différent, mais qui a aussi, bien sûr, un public. Alors, est-ce que nous avons au téléphone? Non, nous n'avons toujours pas notre correspondante au téléphone. Donc, nous allons revenir, et c'est fâcheux. Non, pas forcément, puisque nous pouvons parler, donc, du coup, de ce qui va se passer encore les 8, 9 et 10 juin à Toulouse. Et donc, à Toulouse... sous le soleil, ou en tous les cas la lune, puisque le spectacle commence à quelle heure? 21h, c'est ça. 21h vendredi et samedi, mais aussi samedi et dimanche, 10 juin à 16h.
C'est ça, tout à fait.
Jean-Loup, nous avons notre écrivaine au téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Simone Gélin. Donc, vous venez de publier aux éditions du Cairn, et je salue au passage Sylvie Marquez et aussi Armel Châtel, donc qui font partie de la bande des éditions Cairn. Alors, sous les pavés, la jungle, c'est laquelle jungle? Celle de l'Amazonie ou celle de Calais? Et puis, qu'est-ce qui, au départ, vous a inspiré dans ce roman? Comment vous êtes parti dans cette aventure du polar qui est avec plein de rebondissements et qui tient en haleine la lectrice ou le lecteur?
Je vous remercie. Alors, pour répondre à votre première question, la jungle, il y a plusieurs jungles dans ce roman. Y a, la première, c'est la jungle de la prison, puisque l'histoire commence à Fresnes. Et ensuite, notre prisonnier, une fois sorti de la prison de Fresnes, va se retrouver embringué dans une autre histoire qui va l'amener à traverser le démantèlement du camp de Calais. Donc, ça sera la deuxième jungle. Mais d'une manière plus générale, je crois que je voulais parler de la jungle, de la jungle de la vie, de la jungle de la société. Mmh. Voilà. Et pour répondre à votre troisième question, qui était de savoir comment cette histoire a démarré, je vous ai dit ce midi, ce roman, j'ai commencé à l'écrire un peu différemment des autres, c'est-à-dire en me fiant un peu plus à, on va dire, un peu plus à l'inspiration. Pour mes autres romans, j'avais déjà construit un plan dans ma tête, alors que là, je me suis un peu plus laissée aller, en liberté, on va dire. Et du coup, l'actualité de l'année 2016, pendant laquelle j'écrivais ce roman, est entrée toute seule dans le roman. Donc, on traverse le démantèlement du camp de Calais, et on parle des prisons, parce que c'est un sujet qui a été abordé. Voilà.
Donc, vous êtes parti. Est-ce que vous avez guidé quand même au départ un fil conducteur, ou justement, vous êtes laissé guider aussi totalement par l'actualité, tous les événements qui arrivaient d'un peu partout?
Non, bien sûr, j'avais un fil conducteur. J'avais des personnages surtout dans la tête, bien sûr. Mais l'actualité est devenue le fond du tableau d'une façon assez naturelle. Voilà.
Bonsoir, Simone.
Bonsoir.
Quand vous parlez de personnages, est-ce que vos personnages, globalement, existent vraiment, ou ils arrivent, ou vous faites, en fait, vous suivez votre fil conducteur que vous avez déjà défini?
C'est difficile d'expliquer ça. Au départ, les personnages, je ne sais pas trop comment ils naissent. C'est un petit peu miraculeux, vous savez. Stephen King, il dit qu'on n'invente rien, qu'on ne fait que déterrer des histoires, finalement. Et on se demande quelque part où on va les chercher, ces personnages, parce que parfois, ils nous surprennent. C'est un peu comme s'ils existaient en dehors de notre esprit. Ils nous mènent par le bout du nez. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de mettre en scène, par exemple, un personnage. Et puis, au départ, j'avais prévu quelque chose pour ce personnage. J'avais prévu, par exemple, c'était simplement un personnage secondaire dont j'avais besoin, mais qui n'était qu'un témoin. Et puis, finalement, je voyais ce personnage prendre de l'importance tout seul et s'imposer. Voilà. Donc, quelque part, on a l'impression, j'en ai parlé souvent avec d'autres auteurs qui connaissent bien ça, on a l'impression que les personnages nous échappent et qu'ils prennent leur vie en main. Et ça, ça fait partie des surprises et du bonheur de l'écriture.
Connaissez-vous déjà la fin du livre au départ ou laissez-vous évoluer, en fait, vos personnages? Comment vous faites?
Alors, ça dépend des livres. Ça dépend des livres. Concernant ce dernier, là, Sous les pavés de la jungle, quand j'avais une fin, mais qui ne me satisfaisait pas. Et je savais que cette fin, je l'avais en tête, mais elle ne me satisfaisait pas. Et je savais qu'au cours du roman, forcément, vous savez, on ne maîtrise pas tout. L'histoire elle-même, elle s'enrichit au fur et à mesure qu'on l'écrit, parce qu'on a des idées qui viennent s'ajouter, etc. Donc je savais, dès le départ, que la fin que j'avais prévue ne serait pas la fin. Et que qu'une autre allait surgir et qui me plairait davantage. Et c'est ce qui est arrivé. Mais je m'inquiétais parce que cette fin, j'avançais dans le roman et la fin ne venait pas. Et puis une nuit, elle m'est apparue et j'ai dit oui, voilà, c'est ça.
Alors, est-ce que vous pourriez nous confier un extrait de votre roman « Sous les pavés, la jungle » donc Simone Gelin, donc un ouvrage paru aux éditions du Cairn.
Oui, avec plaisir. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un passage. Finalement, j'ai choisi un passage qui se passe en mai 68, puisque vous savez que dans ce roman, il y a une histoire dans l'histoire, qui est d'ailleurs le fil rouge, qui va se retrouver être le fil rouge du roman. Et donc, cette histoire, elle démarre sur les barricades de mai 68 à Bordeaux. Ce passage donc décrit une manif à Bordeaux en mai 68, la plus importante, celle qui est encore dans certaines mémoires. 48 heures après la manif du Grand Théâtre, le samedi 25 mai à 17 heures, au milieu d'une foule immense, Léa et Jacques s'étaient croisés pour la deuxième fois. Hasard, peut-être. Miracle, sûrement. Il y avait 5000 personnes sur la place Saint-Michel ce jour-là. Et eux deux, au milieu du troupeau, ballottés par le flot, occupés à ne pas se perdre des yeux entre les têtes. Il ne serait plus possible, à ce stade de leur aventure, d'incriminer le sort, d'accuser la chance, la bonne étoile, de rendre responsable le fatum, le karma, de soupçonner une machination de la Providence ni un vulgaire coup de dé. Non, rien de tout cela. Pour Milo, l'auteur, le cerveau, le maître d'œuvre, l'artiste, c'était l'amour, la supplication, l'injonction de l'amour, l'emballement du cœur, toc, 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 l'emballement des sens, le désir, poum, 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 la libido, le feu, la fièvre, la faim et soif de l'autre, la fringale charnelle, l'appétit. Léa décrivait, il faisait beau, il y avait de l'entrain, des enfants dans le cortège, et même des tout-petits à califourchon sur des épaules. Un air de fête flottait dans le ciel, changer la vie, changer la vie. Les mots de Rimbaud portaient en oriflamme. Le convoi se dirigea d'abord vers la place de la Comédie, puis la place Gambetta. En tête du défilé, avançait sur quatre rangs le service d'ordre. Jacques était juste derrière avec les responsables des syndicats. Milo l'imaginait, se retournant pour vérifier que Léa ne se laissait pas distancer. Il lui faisait des signes, elle souriait. À quoi pouvait-il songer à ce moment-là? À l'amour ou à leur révolution? Était-il à l'écoute de leur tumulte intérieur ou de celui de la rue? Ou bien s'efforçait-il seulement de se montrer à la hauteur des événements qu'il pensait historiques? Voilà.
Merci donc Simone Gelin, votre ouvrage Sous les pavés, la jungle aux éditions du Cairn. Peut-être encore une question, Landy.
Oui, une dernière question, Simone.
Oui.
En regardant en fait vos romans, entre autres, je vois en fait que les émigrés, ça revient un petit peu sur le sujet de vos romans. Je pense notamment à un roman que vous avez. Qui est apparu en fait aux éditions Vent Salé.
Oui.
Vous parlez des émigrés espagnols. On parle de Calais. Est-ce qu'il y a une sensibilité de votre part ou c'est vraiment un pur hasard? On peut parler d'un polar social?
Non. D'abord, j'aime beaucoup les romans de société. Et puis, c'est surtout qu'un roman en emmène un autre. C'est vrai que je me suis intéressée d'abord aux émigrés espagnols. Avec un premier roman, je m'étais intéressée à la guerre d'Espagne. Dans le journal de Julia, j'avais mis en scène un républicain espagnol. Ce qui m'a amenée à m'intéresser aux émigrés espagnols à Bordeaux. Et puis, je me suis aussi intéressée aux émigrés aujourd'hui, bien sûr, oui. Je pense qu'il y a un fil rouge. Quand on commence à creuser un sujet, finalement, on n'arrête pas.
D'accord. Merci d'avoir participé à l'émission « Et si demain » sur Esprit Occitanie. Et je vous ferai signe quand le podcast, grâce à Jean-Loup, et pourquoi pas Dorian, sera en ligne.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bonsoir.
Bonne soirée.
Bonsoir, Simone.
Et nous pénétrons maintenant, je ne sais pas, dans la cour de l'hôtel, peut-être Ibis, pour retrouver le théâtre. Le théâtre peut-être de la vie. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui va se passer avec la compagnie Ha ?
Bientôt. Compagnie A, tout court. Non, et alors, donc là, c'est l'inauguration des Tréteaux du Capitole, qui est une nouvelle saison culturelle. C'est le nouveau gros projet de la compagnie. Et à cette occasion, on joue notre spectacle Les Fâcheux de Molière, donc accompagné de cinq comédiens d'exception, énergiques et très, très motivés pour cette nouvelle expérience.
D'accord. Et donc, une nouvelle aventure. Donc maintenant, comme je disais tout à l'heure, il va falloir prier les déesses et les dieux pour qu'il ne pleuve pas comme à l'heure actuelle, là, en direct.
Il ne pleuvra pas.
Non.
Donc, le ciel sera beau et dégagé. Exactement. D'accord.
Très bien. Landy, d'autres questions ou
Tout simplement, qu'attendez-vous ce week-end à part le soleil?
Oui, c'est vrai qu'on attend le soleil, puis on attend aussi que le public soit au rendez-vous, forcément, parce que jouer devant...
La réussite pour vous, ce serait quoi?
Ce qui serait top, c'est qu'il y ait... Enfin, oui, forcément, que le public soit au rendez-vous, mais aussi qu'ils apprécient à sa juste valeur la chance de pouvoir assister dans une cour comme ça, puis dans un lieu... à une représentation théâtrale, ce qui est assez inédit. Donc on a eu la chance de pouvoir collaborer avec les responsables et les gérants de l'hôtel qui sont très motivés par le projet et voilà, qui nous accueillent à bras ouverts dans cette cour. Donc voilà, c'est ça. Enfin, moi, je pense personnellement que le succès serait que les gens reconnaissent qu'en effet, c'est un lieu exceptionnel et qu'il faut en profiter à fond, quoi.
Donc Clémentine.
Et puis de faire un beau spectacle et de partager aussi avec les gens qui seront présents. Parce que l'esprit de la compagnia, c'est ça aussi, c'est le partage d'émotions. On revendique vraiment un théâtre populaire, c'est pour ça qu'il est sur Tréteaux, avec de la musique live électrique. Donc même si les gens n'aiment pas le théâtre, ils pourront venir écouter de la musique sans problème.
Et la question oubliée, je laisse toujours dans un coin de ma feuille. Ça a pris combien de temps en fait pour mettre en place cette pièce?
Alors,
début du projet jusqu'à la fin, jusqu'au 8 pour.
La pièce est assez jeune, elle a un an.
D'accord.
Et elle a été créée, il me semble, en mars 2017 au théâtre de Balma, dans le cadre d'une résidence.
D'accord. Et depuis, en fait, vous avez joué quelque part sur Toulouse?
Oui, on a joué au Grenier Théâtre en novembre. D'accord. De l'année dernière. Et puis, on a joué, il me semble, au Théâtre de Muret en mars. Oui, c'est ça, on a joué au Théâtre de Muret. À Villeneuve-Toulousaine aussi.
D'accord.
Et Anouk, rajoute-moi un sac. Donc, on a fait pas mal de dates. Et donc, cette pièce a été créée dans le cadre de la résidence et puis au fur et à mesure des représentations, elle s'enrichit de plus en plus.
Et donc là, la compagnie quitte le théâtre pour aller dans la cour, voire dans la rue. C'est un petit peu ça, au-devant éventuellement de notre public qui n'ose peut-être pas franchir la porte d'une salle.
Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est cet esprit-là, en fait, c'est vraiment de rendre accessible le théâtre à tout le monde, même à un passant qui passerait dans la rue et qui verrait qu'il y a de la lumière dans la cour, c'est joli, je rentre et voilà quoi. De rendre le théâtre accessible à tout le monde.
Ce qui est un beau projet, puisque le théâtre doit être ouvert, comme la culture d'ailleurs, à tout le monde, et ce qui éviterait peut-être que des dictatures ne montent en puissance. Hein, j'ai rien dit. Non. Allez. Camille, tu veux rajouter quelque chose? Non, tu
non pas... c'est bon, tout est bon.
Tout est bon?
Ouais.
Bon, tout est bon, mais il y a quand même d'autres choses que vous avez envie de dire. Allez, nous avons encore le droit d'avoir 4, 5, 6, 7 minutes. Le Festival d'Avignon, oui, qui se profile, et les dates sont arrêtées, bien sûr, la salle aussi. Donc, est-ce que... vous pourriez nous la rappeler.
Alors, on commence à jouer à partir
On commence à partir donc à jouer au Théâtre des Lucioles. Donc, c'est un théâtre qui est intramuros en plein cœur d'Avignon, qui est un lieu du Festival OFF. Donc, c'est le Festival d'Avignon dans lequel on va jouer du 6 au 29 juillet. Donc, c'est tous les jours sauf le mardi à 17h20. on a des créneaux bien précis, vu que c'est le Festival d'Avignon et qu'il y a beaucoup de compagnies qui y jouent.
Oui, et c'est vrai. Et du coup, là, il faut, c'est effectivement une prise de risque au niveau financier, puisque la salle est louée par la troupe.
Je suppose. Complètement, c'est ça. C'est une location de salle, ouais.
Et il y a combien de places? Vous ne savez pas exactement. Mais...
120, il me semble, mais je n'ai pas envie de vous dire.
Oui, non, d'accord. Alors, il faut avec le micro parce que sinon, on ne t'entend pas derrière. Là.
Donc, je vous disais qu'il me semble que c'est une jauge qui gravite autour d'une centaine de places. Il me semble.
Donc, c'est toujours un challenge, mais c'est aussi pour éventuellement accrocher aussi quelques programmatrices et heures.
Évidemment, oui. Il est prévu de faire venir plusieurs programmateurs et programmatrices.
Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as déjà testé Avignon ?
Ça sera la toute première fois.
D'accord. Oui, Anouk ?
Si je peux me permettre,
mais
en effet,
peux,
vous disiez que c'était, c'était un gros risque financier, puis c'est un super challenge pour la compagnie qui va aussi jouer près de 30 fois la pièce. Donc voilà, pour la, elle sera testée, approuvée et puis... et expérimenter. Et donc, j'en profite d'être là à la radio pour proposer aux auditeurs qui veulent nous donner un petit coup de main, qu'on a une petite campagne de crowdfunding qu'on a montée il y a une petite semaine, et que si jamais, éventuellement, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui vient éventuellement ce week-end, et puis qui accroche avec le théâtre, la compagnie, et ben, avec le spectacle, pardon, ben, qui veut nous donner un petit coup de pouce, c'est avec grand plaisir.
Très bien. Donc là, il faudrait se déplacer jusqu'à la cour de l'hôtel Ibis, mais aussi peut-être par le biais d'Internet.
Bien sûr, c'est sur Ulule. C'est une plateforme qui s'appelle Ulule. Et il y a des super contreparties, parce qu'évidemment, on sait comment remercier nos soutiens, dont un selfie avec votre fâcheux préféré.
D'accord. J'espère que ce n'est pas un facho, le fâcheux. Non. Lundi, autre question?
Non, c'est bon. Je peux que souhaiter bonne chance en fait pour le week-end.
Merci
et
beaucoup.
Après pour la suite à Avignon, là, je pense que vous allez des chances de vos côtés parce que bon, je pense que les salles elles seront peut-être pleines, même si vous avez beaucoup de concurrence.
On espère en tout cas, on va tout faire pour. Et là, peut-être qu'on va se croiser dans les rues de Toulouse mercredi, jeudi ou vendredi, car on va flyer en costume pour attirer un peu plus de public et ouvrir donc la porte du théâtre à tous les passants de Toulouse.
Donc ce que vous aviez fait déjà avec Irène.
D'accord. C'est comme ça qu'on a rencontré, ouais, on a eu un contact grâce à ce flyage en costume.
Voilà. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas venu en costume. C'est dommage pour la photo.
C'est pas une télé.
Ça ne supporte pas très bien la pluie, en
oui,
plus.
Tu as raison. Non, merci d'être venu jusqu'à nous sur Esprit Occitanie dans le cadre de l'émission. Et si demain, et au plaisir de vous retrouver, je vais prendre tes coordonnées, Clémentine, pour ton autre... pour ta troupe de théâtre. Merci Jean-Loup, merci Dorian. Je vous dis à très vite, n'est-ce pas, cher ami ? Et peut-être à la semaine prochaine, nous parlerons entre autres de catharisme et peut-être de druide aussi. Mystère. Bye bye, à plus.